Le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose
Votre santé, votre avenir.
Au micro, Khalil Gueye, votre santé, votre avenir commence maintenant. Dans ce numéro, notre invité est...
Félix Cabon-Guénoumé-Mitrapa, je suis médecin de formation et ministre de la Santé publique en République démocratique du Congo. Je remercie la Voix de l'Amérique pour l'honneur qui m'a été fait pour participer à cette émission « Votre santé, votre avenir ».
Merci, monsieur le ministre. Le plaisir est pour nous. Et vous ferez face à nos correspondants qui sont dans les provinces de la RDC. D'abord, nous aurons au Katanga, à Lubumbashi, Régine Kasango. Régine, vous êtes là?
Oui, je suis là. Bonjour, Khalil. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à tous les auditeurs de votre intérêt.
Merci. Bonjour, Régine. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Dans le développement de votre pays, monsieur le ministre, le rôle de votre ministère, celui de la santé, est très important. En effet, votre grand pays est secoué par la pandémie de sida et les conflits souvent récurrents dans l'Est font vivre aux populations des actes de violence sur la femme, la fille et la petite fille. Du coup, c'est la santé de la femme qui appelle encore le service de votre ministère. Pour commencer, où est-ce que vous en êtes, en gros, dans la lutte contre le sida dans votre pays, monsieur le ministre?
Merci beaucoup, Camille. En fait, la lutte contre le sida reste une grande priorité au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, au niveau du ministère de la Santé, nous avons d'abord un cadre organisé de lutte contre le VIH-Sida. On a un programme national dédié uniquement à la lutte contre le VIH-Sida. Nous avons un programme national multisectoriel de lutte contre le sida qui est présidé par le chef de l'État, lui-même, son excellent Joseph Kabila Kabange. En ce qui concerne également la lutte sur le plan stratégique, nous avons un plan stratégique national avec des plans sectoriels. Nous avons une politique nationale en matière de lutte contre le VIH-Sida. Et globalement, pour ce qui concerne les indicateurs, le VIH-Sida, la prévalence en RDC est à 1,1% dans la population générale et autour de 3,5% chez la femme enceinte. Et nous pouvons dire que nous avons à peu près plus de 185 000 personnes qui connaissent leur statut sérologique sur un total d'environ 326 000 qui ont besoin d'ARV, mais 485 000 personnes qui vivent avec le VIH en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons environ 76 000 personnes vivant avec le VIH qui sont sous traitement aux ARV, et cela représente environ 30%. Ça représentait il y a quelque temps 30% des besoins, mais vous savez, le seuil de l'OMS pour le contrôle de CD4 a été relevé à 500, c'est que ce même taux représente environ 23% des personnes qui ont accès au VIH-Sida. Donc, nous avons également les femmes qui bénéficient des ARV pour la prophylaxie, bien que le taux soit plus bas. Nous sommes autour de 4500 qui ont pu bénéficier des ARV au courant de l'année 2013. Et le VIH-Sida reste un défi majeur où nous devons vraiment tout mettre en œuvre par rapport à l'objectif ultime, à l'engagement ultime du président de la République sur les objectifs, bien sûr, du millénaire sur le VIH-Sida. Nous voulons atteindre l'objectif zéro nouvelle infection, zéro décès, zéro discrimination, et toutes les activités que nous menons et tous les documents stratégiques qui sont élaborés concourent justement à l'atteinte de cet objectif.
Merci, monsieur le ministre, pour ce tour d'horizon qui est très enrichissant et très encourageant aussi. Nous n'ignorons pas les efforts de votre département ici à la Voix de l'Amérique et nous sommes au courant de ce que vous faites. Et nous allons essayer de retrouver notre ami de Goma, Mustapha Kemal. Mustapha, vous êtes là?
Oui, bonjour, Marine. Je vous écoute un peu bien malgré les problèmes de la connexion.
Mm-hmm. Une petite question au ministre, monsieur le ministre. Est-ce que vous avez aujourd'hui réussi, je sais que vous travaillez avec le PNMLS et nous connaissons les engagements et les efforts du PNMLS. Est-ce que vous avez aujourd'hui réussi à articuler les relations entre votre ministère et celui de la justice dans le traitement et la prise en charge des PVV en prison? Récemment, dans une émission sur le sida en prison, des agents du ministère de la Santé nous avaient expliqué qu'ils avaient des problèmes pour accéder souvent aux prisons pour la prise en charge des PVV, parce que les prisons étant du domaine du ministère de la Justice. Est-ce que c'est réglé?
Merci beaucoup, Camille, pour la question. C'est une question fondamentale. Mais je voudrais dire qu'il y a quand même beaucoup d'avancées dans la matière. D'abord, dans le cadre du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA, le ministère de la Justice est représenté. Mais au-delà de ça, nous avons, fin 2013, signé un arrêté interministériel, moi-même et la ministre de la Justice, pour la santé dans le milieu carcéral. Nous sommes en train de réglementer la santé dans le milieu carcéral, si bien qu'aujourd'hui l'accès du personnel médical dans les prisons est plus facile, et même par rapport aux différents programmes, nous sommes d'ailleurs en train d'élaborer un programme très spécialisé pour pouvoir nommer des infirmiers, des médecins et d'autres personnels de santé qui vont s'occuper totalement de la santé dans les milieux carcérales. Donc je pense que c'est un problème où un grand pas a été franchi, non pas de manière spécifique par rapport au VIH, mais de manière globale sur la santé en milieu carcéral. Le ministère de la Santé a été vraiment responsabilisé à travers cet arrêté interministériel à s'occuper des soins de la prévention, bien sûr, et à tous les prisonniers qui sont dans les différentes prisons de la République.
Merci, monsieur le ministre. Régine Kasango, à Lubumbashi.
Je voudrais aller presque dans le même sens, dans le volet de la justice, pour poser cette question à monsieur le ministre. Monsieur le ministre, certaines pratiques coutumières continuent à être d'application, vous le savez, dans certains coins, dans certains milieux, surtout en milieu rural. Comment est-ce qu'on peut mettre fin complètement à ce phénomène pour garantir une bonne santé à la population? Est-ce qu'il faudra y aller par des sanctions très, très sévères?
Je voudrais peut-être, Régine, que vous puissiez préciser quel type de pratiques coutumières que vous êtes en train d'incriminer.
Nous avons le sorora, par exemple.
Ah, ok. Oui, en ce qui concerne le lévira et le sorora, en fait, ce sont des pratiques que nous avons décriées depuis très longtemps. Ça fait partie des pratiques ethnoculturelles à risque dans la transmission du VIH-SIDA. Et je pense que nous devons y aller plus par la sensibilisation, parce qu'il est très difficile de pouvoir appliquer la justice, surtout les sanctions judiciaires, à l'endroit des pratiques culturelles. Ce n'est pas comme, par exemple, les excisions, parce que là, aujourd'hui, il y a des lois qui condamnent l'excision. Mais en ce qui concerne le lévira et le sorora, ce que nous conseillons, justement, par les pères éducateurs, c'est de pouvoir sensibiliser les populations rurales afin d'utiliser des symboliques. Aujourd'hui, quand vous perdez une belle-sœur, ce n'est pas nécessaire, en rite de purification, par exemple, qu'on puisse appeler le jeune frère du marié pour avoir des relations intimes avec la veuve afin de la purifier. Il y a dans certains milieux, moi-même j'ai participé dans des sensibilisations dans certains milieux ruraux, où aujourd'hui ils ont compris, on utilise par exemple un jeune enfant qu'on place sur les jambes de la veuve, et on prononce quelques paroles, ça permet de terminer le rite. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette sensibilisation, aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui est en train de criminaliser le lévira ou le sorora. Peut-être qu'il faut qu'on en discute encore davantage, mais actuellement, nous plaçons plutôt un accent important sur la sensibilisation afin que les personnes qui pratiquent ces pratiques ethnoculturelles à risque sachent qu'il y a des conséquences. Je me rappelle, il y a eu un temps où on conseillait, par exemple, pour ces rites de purification, d'exiger le port du préservatif. Et vous sentez déjà, c'est un rite de purification. Lorsqu'on va porter le préservatif, les réactions surgissent de toutes parts, où on vous dit que ça ne peut pas se faire, parce que s'il porte le préservatif, ça ne sera pas un rite naturel. Donc ça permettait déjà de bloquer la marche et de permettre à ce qu'on puisse utiliser d'autres méthodes qui existent dans les mêmes tribus qui peuvent nous permettre de contourner le lévira ou le sorora.
Oh,
Nous allons à Boujimaï retrouver Jean-Hubert Bondeau. Jean-Hubert, vous êtes là?
Oui, bonsoir Khalil, bonsoir à tout le monde, bonsoir à monsieur le ministre.
Il paraît qu'il pleut beaucoup chez vous là, ce soir.
Il pleut, mais ça s'est interrompu momentanément, je ne sais pas si ça va reprendre, mais ça donc la pluie tombe par intervalle quoi, mais pour le moment, il y a quand même du bon temps pour l'instant quoi.
Très bien, donc nous allons profiter de l'accalmie pour vous passer la parole, pour que vous puissiez poser votre question au ministre Numbi.
Ok, ma petite question, c'est celle de savoir, récemment, on a appris que le Fonds mondial a versé à la RDC une enveloppe d'environ 130 millions de dollars américains pour la lutte contre le VIH. Je voudrais savoir comment le gouvernement utilise cet argent, ou bien, ça passe par quel circuit et tout. Je crois que le ministre est certainement informé de comment cet argent doit être utilisé. Donc, il nous puisse un peu nous expliquer comment cet argent va être utilisé et comment les provinces vont être bénéficiaires de ces fonds. Mmh. Voilà ma question, quoi.
Très bien. Monsieur le ministre.
Le Fonds mondial, pour le moment, je pense que je suis sûr que Jean-Luc est en train de parler des 130 millions de dollars qui constituent les fonds pour lesquels nous avons déposé la note conceptuelle. Nous avons clôturé ça fin janvier pour la période intermédiaire 2014-2017. En fait, par rapport justement à cet argent, d'abord, comment ça va être utilisé? La première des choses, c'est que nous avons mis sur pied un plan stratégique national. Et nous avons défini 5 priorités. Et l'argent, les 130 millions qui sont repartis sur 3 ans, vont justement être repartis sur les 5 axes prioritaires. Peut-être que je vais très rapidement donner ces axes. Ce sont des axes qui sont en rapport avec l'objectif zéro nouvelle infection, zéro décès et zéro discrimination. Par rapport à zéro nouvelle infection, c'est l'axe stratégique numéro 1, la prévention de la transmission du VIH et des IST, et l'axe numéro 2, l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Et par rapport à zéro décès, nous avons l'axe numéro 3 qui regroupe les activités sur l'amélioration de l'accès aux soins et traitements. Enfin, nous avons sur zéro discrimination, il y a l'axe numéro 4 sur la promotion d'un environnement favorable aux personnes vivant avec le VIH et aux personnes affectées ici. Parce qu'il faut le dire quand même pour cet axe numéro 4, l'impact attendu, c'est en fait l'impact de la discrimination et de la stigmatisation sur les personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées. L'impact sur les violences sexuelles et les inégalités genre, et cela par la promotion d'un environnement favorable, nous pensons réduire au moins 50% cette discrimination. Et comment cet argent va parvenir aux provinces par rapport à tous ces axes? Nous avons travaillé, parce que avant que nous puissions déposer la note conceptuelle, nous avons organisé des dialogues provinciaux. Au-delà de ce dialogue provincial, nous sommes arrivés au dialogue national. Les dialogues provinciaux nous ont permis d'établir les problèmes qui se posent dans toutes les provinces et les besoins. Mais c'est vrai qu'il y a certaines priorités que nous allons avoir. C'est par exemple, nous disons que les activités vont se dérouler, notamment dans les zones où il y a une plus grande prévalence. Naturellement, dans ces zones, toutes ces villes ou tous ces milieux ruraux où nous avons une prévalence autour de 5%. Parce qu'il faudrait que cet argent qui arrive puisse avoir un impact direct sur la réduction de nombre de nouveaux cas, mais également sur la prise en charge des personnes qui vivent déjà avec le VIH. Donc il y a eu comme ça, nous avons travaillé de manière consensuelle, de manière très inclusive, parce que tout le monde a été mis à contribution pour l'élaboration de ces priorités, et c'est en fonction de ces priorités telles que c'est prévu dans la note conceptuelle que l'argent sera redistribué sur l'ensemble de la République démocratique du Congo.
Merci, monsieur le ministre. Jean-Hubert, vous gardez la ligne. Je retourne à Lubumbashi, retrouver Régine Kasongo. Régine?
Oui, Khalil. Monsieur le ministre, il y a une opinion qui pense que l'infection à VIH est liée à l'injustice sociale, à l'insécurité conjugale, à l'insécurité de manière générale et au manque d'emploi et autres. mais certaines femmes se réfugient dans la prostitution parce qu'il y a ce genre de phénomène, notamment le manque d'emploi à leur mari, l'insécurité conjugale et autres. Et donc, il y a la crise et cela fait que les gens s'adonnent à la prostitution. Et donc, il y a difficile de mettre fin à la propagation de la pandémie. Comment réagissez-vous à cet état des lieux?
Merci beaucoup, Régine. C'est vrai que votre question est très profonde. En fait, elle essaie de mettre en exergue le lien qu'il y a entre la pauvreté d'une part et la transmission du VIH d'autre part. C'est vrai qu'il y a au mois de septembre, quand il y a eu l'Assemblée mondiale SIDA, bon, en fait, le thème était vers la fin de l'épidémie. C'est vrai, vers la fin de l'épidémie, dans l'hémisphère nord, dans les pays développés, mais chez nous, les nouvelles infections existent encore. C'est vrai que la pauvreté a une part de responsabilité, mais comme je l'ai toujours dit, finalement, le VIH, il y a toujours une contribution personnelle, il y a une composante personnelle. La pauvreté, pour une femme mariée, parce que là, vous avez stigmatisé le fait, par exemple, que les femmes mariées soient infidèles ou de manière particulière parce que le mari n'a pas d'emploi, mais je pense que c'est la même chose. Je ne sais pas si on peut justifier également l'infidélité de l'homme du fait de la crise. Je ne pense pas que ce soit possible. Donc, je pense qu'il y a une composante psychologique, une composante psychique, mais aussi une désinformation. Je ne vois personne qui, parce que n'a pas d'emploi, parce que le mari est très pauvre, parce que le couple ne s'épanouit les deux bouts du mois, qui irait contracter volontairement le VIH. Même si aujourd'hui on doit justifier la prostitution par la recherche de l'argent lié à la pauvreté, mais cela ne justifie pas le fait qu'on puisse aller avoir une relation sans préservatif, par exemple. Donc je n'oserais pas juger les gens, parce que l'infidélité c'est un comportement que nous fustigeons tous, c'est pourquoi nous disons que dans les méthodes ou dans les méthodes de prévention, il y a la fidélité conjugale et nous ajoutons réciproque. Donc, pour moi, si l'infidélité peut être justifiée par la crise dans la maison, mais le fait d'aller s'exposer sans préservatif ne peut pas être expliqué par cela. Voilà pourquoi nous disons que chez nous, il y a aussi le problème de l'éducation qui pose problème. Donc vous allez remarquer également que les personnes qui sont éduquées reçoivent l'information. Plus facilement, ils se protègent mieux, alors que les personnes qui n'ont pas l'information ne le font pas de la même manière. Donc je pense, Régine, qu'il faudrait que nous travaillions plus sur la sensibilisation afin de donner de l'information, mais je peux vous rassurer qu'il y a très peu de gens qui prendraient la décision de manière volontaire d'aller contracter le VIH sous prétexte de la pauvreté.
Direction Kinshasa, où nous attend Pascaline Zamouda. Pascaline.
Oui, Camille, je suis à l'écoute.
Très bien, allez-y avec votre question. Nous sommes dans la partie lutte contre le sida en RDC. Est-ce que vous avez une question d'ordre général sur le rôle du ministère ou bien sur l'état de la lutte contre le sida en RDC? Pour les ministres.
Je voudrais peut-être demander à monsieur le ministre, vis-à-vis de l'évolution justement de la question et même au regard de la propagation de l'infection du VIH-Sida en RDC, quelles sont les mesures? Est-ce qu'ils arrivent à diversifier les mesures selon que les VIH-Sida se propagent à l'Est, dans quel contexte purement des conflits armés? Là, je ne vais pas aller en détail parce qu'au moins tout le monde connaît la question et que dans les restes du pays, où plutôt une question de sensibilisation ou une question des moyens plutôt ordinaires de lutter contre le VIH-Sida.
Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que tout à l'heure, je venais de parler des priorités et des axes stratégiques. En fait, la plupart de nos activités sont justement les activités qui sont sur les cinq axes dont je venais de parler tout à l'heure. Donc ça, c'est pour l'ensemble du pays. C'est vrai que nous avons intensifié, depuis qu'on a libéré beaucoup de territoires à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons intensifié la lutte à l'est. Et pour ceux qui faisaient la remarque à la RDC de ne pas contribuer à la lutte contre le VIH par des fonds du gouvernement, par des fonds locaux. J'aimerais dire que le gouvernement de la République a mis suffisamment de fonds maintenant dans la lutte contre le VIH et actuellement, nous allons agir sur 11 zones de santé de manière spécifique dans le Nord Kivu, c'est-à-dire dans les zones libérées, dans les zones post-conflit, et environ 1,8 million net pour le VIH-SIDA. Mais si nous devons ajouter les fonds de contrepartie qui ont été retirés des autres programmes et qui ont été ajoutés au programme de transfusion sanguine et à l'intervention dans la communauté, à ce jour, je peux vous dire qu'on a disponibilisé environ 3 215 000 dollars américains pour les actions de lutte contre le VIH, de transfusion sanguine et de participation communautaire. C'est la première fois que le CCM RDC venait de faire une assemblée générale unique qui a été axée principalement sur la répartition de ces fonds de contrepartie. Nous voulons agir de manière particulière par la sensibilisation au niveau des territoires libérés, par des diagnostics communautaires. Nous avons fait des diagnostics de masse, des actions de sensibilisation pour le dépistage volontaire dans plusieurs cités, dans plusieurs territoires au niveau de l'Est de la République. Et les personnes qui seront identifiées et qui seront éligibles au traitement, nous allons les mettre immédiatement sous traitement. C'est quand même assez exceptionnel, mais ça c'est vraiment pour le Nord Kivu, parce que là nous avons une population qui pendant très longtemps a été meurtrie par la guerre. Donc au-delà des actions générales qui sont menées sur l'ensemble du pays, actuellement, il y a des actions qui seront intensifiées dans les territoires qui viennent d'être libérés par nos forces armées de la République.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique. Vous suivez votre santé, votre avenir. Notre invité,
Félix Kabangé-Nguema-Kompa, je suis médecin de formation et ministre de la Santé publique en République démocratique du Congo. Je remercie la Voix de l'Amérique pour l'honneur qui m'a été fait pour participer à cette émission. Votre santé, votre avenir.
Au micro, Khalil Gay. Avant de toucher le chapitre santé de la mère et de l'enfant, Monsieur le ministre, je voudrais rapidement passer par la question des violences sexuelles, questions qui sont surtout vécues dans l'Est. Vous en avez parlé rapidement. Qu'est-ce qui a été fait par rapport à ces parties qui sont secouées par les conflits?
Oui, je disais que par rapport aux parties qui sont secouées par le conflit, le gouvernement de la République a mis sur pied un plan de sauvetage, un plan d'intervention. Et ce plan, il est multisectoriel, il est transversal. Et dans le domaine de la santé, nous avons des défis majeurs par rapport à la reconstruction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires, les équipements. Nous sommes en train d'agir sur la lutte contre les maladies épidémiques et nous sommes en train d'agir contre les pandémies telles que le VIH, le paludisme et la tuberculose. Nous venons d'organiser, d'ailleurs, dans le cadre de la santé, pendant 3 mois, juste après la libération, le ministère de la Santé a décrété la zone de santé, ou plutôt le territoire de la province du Nord Kivu, province sinistrée. Pendant 3 mois, nous avons lancé une campagne de transfusion sanguine gratuite sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Donc, je disais qu'il y a un certain nombre d'activités et dans le cadre de la lutte contre le VIH, nous avons intensifié les activités liées à la prévention de la transmission du VIH et des IST, les activités liées à l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, l'amélioration à l'accès aux soins et traitements. Et bien sûr, nous sommes en train de mener une véritable campagne pour améliorer l'environnement des personnes vivant avec le VIH et des personnes affectées dans cette partie du pays.
Merci, Monsieur le ministre. Régine Kasongo à Lubumbashi.
J'aimerais parler de la femme enceinte. Le Katanga est dans une phase expérimentale par rapport à l'option B+, c'est un terme qui prend de l'ampleur ces derniers temps ici au Katanga. Et j'aimerais savoir quel est l'avantage que renferme l'option B+, chez la femme enceinte principalement.
Pour Régine, l'option B+, a un avantage particulier. Ça veut dire qu'au-delà du fait qu'on on traite la mère, c'est-à-dire qu'on lui donne des médicaments pour protéger l'enfant qui va naître afin que cet enfant naisse sans VIH-SIDA. Mais l'option B+, a l'avantage qu'après l'accouchement, on continue à prendre en charge la femme jusqu'à la fin de ses jours, chose qui n'est pas faite dans les autres types d'interventions, notamment dans le cadre, par exemple, de l'option A+, où on est en train de prendre la femme dans le troisième trimestre avant l'accouchement et peut-être on continue quelques semaines juste après l'accouchement, en fait, pour protéger l'enfant contre l'infection. Donc ici, on prévient d'abord la protection de la mère à l'enfant, mais on prend en charge également la mère après l'accouchement et jusqu'à la fin de ses jours. Et j'aimerais dire que la phase expérimentale va être étendue. Nous avons 5 hommes de santé qui étaient pris en charge au niveau de la ville de Lubumbashi avec les fonds de contrepartie dont je viens de parler du gouvernement de la République. L'option a été prise de pouvoir étendre, on va ajouter encore 6 hommes de santé à Lubumbashi de sorte que toutes les zones de santé de Lubumbashi soient concernées par l'option B+. Donc nous allons petit à petit vers l'extension de cette option au niveau de la province et pourquoi pas au niveau du pays.
Au revoir Pascaline.
Au revoir Halil.
Oui, merci. Au revoir, merci, à bientôt. Au revoir Jean-Hubert.
Au revoir Halil, au revoir à tous les auditeurs et à monsieur le ministre aussi.
Merci beaucoup. Alors, nous avons perdu Régine, mais c'est pas grave. On la retrouvera après. Monsieur le ministre, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Camille. Et merci de m'avoir donné cet honneur d'intervenir encore une fois dans votre santé, votre avenir.
Merci, merci, monsieur le ministre. Et bonne soirée à Kinshasa. Au revoir.
Merci.
Votre santé, votre avenir, c'est terminé. There must be some kind of way out of here. Technique, Jackson Beat. Réalisation, Forte Locale. Micro, Khalil Gay. Au revoir et à la semaine prochaine.
But a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Kept the